Vous écoutez
RMC. RMC, Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
16h52 sur RMC. Oui, vous êtes en direct dans Rotten sans flamme, spécial Coupe du Monde. On est là, on est bien, avec encore un match, bien sûr, en direct, qu'on va suivre avec Valentin Jamin dans un instant, entre Pays-Bas et l'Équateur. Mais avant ça, bien sûr, on a une émission de folie, à commencer par Nico Jamin, qui remplace le grand Jean-Louis Tour. Salut Nico.
Il faut être à la hauteur de Jean-Louis Tour. Salut Jérôme, merci de m'accueillir.
Un plaisir que tu sois là, Nico, et de partager cette émission ensemble. On a du lourd aujourd'hui, bien sûr. On a la référence du consultant, c'est Jean-Michel Larquet. Salut Jean-Mi.
Bonjour les amis.
Ça va ? Salut Jean-Mi.
Tout va bien, tout va bien. Bah, je bouffe du football et pendant que Jean-Louis Tour, lui, mange autre chose parce qu'il est au repos.
Là, il est au repos, je peux te dire que pas au repos pour la bouffe, ça c'est sûr.
Il est déjà fatigué.
Ouais, un petit peu,
t'en fais pas. Bon, on est avec Football Samba, forcément, c'est Juninho du Brésil. Salut Juni.
Salut Jérôme, salut Jean-Michel, salut Nico.
Ça va Juni?
Ça va, après hier, ça va.
Bah, tout va bien. Bon, vous avez perdu Neymar pour l'instant, donc c'est gros point noir pour l'instant.
C'est vrai. Les deux prochains matchs, c'est surtout.
Bon, et on a une légende.
Alors là, bien sûr.
Alors la légende. Alors la
légende d'RMC aussi.
Ah bah oui.
On va commencer par RMC, mais surtout légende, parce que moi, le Paris Saint-Germain, c'est dans mon cœur. Il est là, c'est Luis Fernandez. Salut Luis.
Salut Jérôme, salut à
vous. Je vais applaudir aussi.
Salut à Jean-Michel. C'est un plaisir de.
Salut Luis.
De passer un moment avec vous, mais c'est. On va essayer d'être bien.
On est très heureux de t'accueillir.
Merci d'être là. Comment ? Merci d'être là.
Je suis content. Je connais RMC bien. Ça va.
Sans blague.
C'est une bonne maison.
Voilà, Luis Fernandez, consultant Bein Sport. Merci à Bein de nous prêter Luis. La famille RMC est réunie. 12 ans RMC. Les gars, ce soir, il y a un match donc Pays-Bas-Équateur. Ça commence dans moins de 7 minutes au stade Khalifa International. Au commentaire, Valentin Jamin. Salut Valentin.
Salut messieurs. Bonjour. Salut à Valentin. Toutes et à tous. Et bienvenue effectivement à ce Khalifa Stadium Pays-Bas-Équateur. Les deux équipes de cette poule A qui l'ont emporté lors de la première rencontre de cette journée. Victoire 2-0 pour les Pays-Bas face au Sénégal. Victoire 2-0 pour l'Équateur face au Qatar. Les Pays-Bas pourraient être, en cas de succès, la première équipe déjà qualifiée pour les huitièmes de finale. Les Pays-Bas qu'on décrit comme une des équipes favorites, en tout cas qui fait partie de ces équipes de tête pour, pourquoi pas, aller au bout de la compétition. Ils sont en train d'ailleurs d'écouter leur hymne, les Néerlandais. Des Pays-Bas et Virgil van Dijk, le capitaine qui encourage ses troupes au Khalifa Stadium. Une armée de supporters orange évidemment très présents comme souvent pour soutenir leur équipe. Et le stade va de nouveau se taire pour écouter cette fois-ci l'hymne équatorien. Salvé au Patria.
Votre match sur RMC avec Groupe Verlaine, expert de l'isolation par l'extérieur et du photovoltaïque pour maisons individuelles. Groupeverlaine.com.
RMC, Coupe du Monde de la FIFA 2022.
Vous êtes bien dans Rotten sans flamme. Mais oui, on s'éclate, on va voir un grand match. J'espère qu'on verra des buts entre les Pays-Bas et l'Équateur, bien sûr, dans un instant avec Valentin Jamin. Mais on a aussi un programme, l'actualité
quel
des
programme,
Bleus, le Brésil. Nico, donne-nous le programme.
L'actu des Bleus dans moins de 24 heures. France-Danemark, faut-il attendre du changement dans le 11 demain? À 18h également, ce mondial, vraie question, vrai débat, peut-il être celui d'Ousmane Dembélé? On va en débattre, rappelez-nous d'ailleurs au 32-16 pour en parler. À 19h, la une de Rotten sans flamme, le match face au Danemark, faut-il lever les doutes sur les Bleus? Oui, mais quel doute! J'attends l'avis de Louis avec impatience, celui de Juni, Jean-Michel, et toi Jérôme bien sûr. Et puis bien sûr, on n'oublie pas la blessure de Neymar. Peut-elle compromettre les chances du Brésil à la recherche d'une sixième étoile mondiale? Et peur sur l'Argentine. Messi demain et ses coéquipiers face au Mexique, on ira à Buenos Aires. Tension énorme dans le pays et dans la capitale argentine. L'actu des Bleus, messieurs, c'est parti, direction le stade Jassim Bin Hamad où l'équipe de France va achever dans quelques minutes son entraînement. Jeannot Rességuier est avec nous. Salut Jeannot.
Bonsoir tout le monde.
Salut Jeannot. Jeannot, entraînement à huis clos, mon cher.
Il est en train de se terminer. Entraînement à huis clos, effectivement. Donc 15 minutes ouvertes aux médias, on n'a pas vu grand-chose comme d'habitude. Les 23, en tout cas, étaient présents. 20 plus 3 par rapport notamment, les 24 pardon, par rapport notamment aux trois gardiens de but et les joueurs de champ. Donc ça veut dire que Coman était présent alors qu'il avait écourté, souvenez-vous, hier la séance d'entraînement pour une petite douleur. Varane, lui, était présent et s'est entraîné tout à fait normalement et sans le strap sur la cuisse qu'il accompagnait notamment ces dernières heures. Donc ça veut dire que très certainement, et si on reprend un petit peu les termes de la conférence de presse ce midi de Didier Deschamps, il y a la possibilité d'apporter l'expérience de Varane au sein de la charnière avec Upamecano. Il y a toujours cette base de réflexion au côté droit de la défense avec notamment Pavard et Koundé. Pour la gauche, Théo Hernandez titulaire sur ce côté gauche puisque c'est lui qui a remplacé son frère. Milieu de terrain, ça ne devrait pas bouger. En attaque, ça ne devrait pas bouger normalement. Pour ce qui est du huis clos aujourd'hui, autant vous dire que c'est impossible de bosser, c'est impossible d'essayer d'avoir la moindre information. Le stade Al-Sadd, il est totalement verrouillé, totalement fermé, avec des gens de sécurité partout, caméras de surveillance. Il y a même deux drones que l'on a aperçus. Ouais. Donc voilà, en gros, ça sera un petit peu plus tard qu'on aura quelques informations. Petite anecdote concernant les joueurs de l'équipe de France. Le fantôme Rami est revenu cette nuit. À 3h du matin, ils ont été réveillés par l'alarme à incendie. Alors c'est une alarme à incendie.
Rami n'y est pour rien cette fois-ci.
Voilà, Rami n'y est strictement pour rien, mais ça a fait drôle un petit peu, en tout cas pour certains joueurs et pour le staff. Il y a même quelques joueurs qui ont dit il est là, il revient. Donc voilà, pour la petite anecdote, ils ont été réveillés à 3h du matin par l'alarme à incendie.
Jeannot, tu restes avec nous dans Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde. On va débriefer les infos de Jeannot. Quel compo idéal demain face au Danemark? Quel changement? Mais d'abord, retour au stade qualif international pour Pays-Bas, Équateur, Valentin Jamin. Le coup d'envoi est imminent.
Il est donné à l'instant même par les Équatoriens dans leur maillot bleu marine, le deuxième maillot de cette équipe d'Équateur. Un premier long ballon mis dans la surface des Pays-Bas, la tête de Virgil van Dijk, nouvelle tête néerlandaise, mais ça va revenir côté gauche pour les Équatoriens. Davy Klaassen vient récupérer ce ballon, peut-être la première montée pour les Néerlandais avec Dumfries, le joueur de l'Inter Milan qui a été contré et qui va obtenir une touche au milieu de terrain. Je vais juste vous rappeler qu'il y a eu trois changements dans la compo des Pays-Bas par rapport à la première rencontre face au Sénégal. Team préféré à De Ligt dans l'axe. Klaassen et Koopmeiners sont au milieu de terrain, notamment parce que Cody Gakpo, buteur lors du premier match, est passé devant. Et du côté de l'Équateur, on a calqué la défense à 3 des Pays-Bas en rajoutant le joueur de 3, justement, Jackson Porozzo dans cette partie avec les Pays-Bas. Peut-être une première balle vers le camp équatorien. C'est finalement dégagé de la tête. Voilà pour cette première minute entre le Pays-Bas et l'Équateur, 0-0.
Les gars, est-ce que ça sent le match piège par excellence, Jérôme, pour les Pays-Bas?
Je sais pas, match piège, moi j'aime pas cette expression-là, parce que de toute façon, maintenant t'es prévenu, hein, et ils ont un match, tout le monde a vu toutes les équipes, donc tu sais plus ou moins les forces et les faiblesses de chacun. La logique voudrait que les Pays-Bas s'imposent aujourd'hui, dans tous les cas, mais il faut le gagner le match, il faut mettre du rythme, et puis surtout pallier encore une fois l'absence de Memphis Depay devant, parce que c'est quand même un frein pour l'instant pour cette équipe des Pays-Bas.
Il était rentré à l'heure de jeu
au
Sénégal,
ouais.
Il avait été bon d'ailleurs, il avait été excellent, il avait fait beaucoup de bien aux Néerlandais. Jean-Michel, ton avis sur les Pays-Bas, est-ce que tu penses que ces Pays-Bas peuvent être une surprise dans ce mondial?
Oui, enfin, ce serait une énorme surprise, mais ne négligeons pas quand même l'Équateur. Quand on finit dans un championnat où il y a 10 équipes, je parle du championnat qualificatif du groupe du Comebol d'Amérique du Sud, et qu'on est devant des pays comme notamment comme le Chili et la Colombie, ça veut dire qu'on a des qualités que l'on n'avait peut-être pas auparavant. Et comme les Pays-Bas reviennent quand même, reviennent à un bon niveau, Nicolas, reviennent à un bon niveau, mais n'oublions pas qu'il n'y a pas si longtemps que ça, ils étaient au fond du trou, au creux de la vague.
Et oui.
Donc ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Oui, ils sont favoris, les Néerlandais, mais ça risque d'être très très compliqué pour eux.
Louis. C'est le retour de Louis van Gaal. Louis van Gaal, c'est cet entraîneur de 71 ans. C'est un entraîneur qui a gagné la Ligue des Champions avec l'Ajax contre Milan AC. C'est cet entraîneur qui est pas resté longtemps. La première fois, c'était 2000-2001. La deuxième, il est resté deux ans. C'était 2012-2014. Et là, il revient pour une troisième, en sachant qu'il a eu aussi un
cancer,
un
cancer de la prostate.
Bon, c'est un personnage, van Gaal. Hein. Attention, c'est aussi, un entraîneur qui a aussi, pour l'avoir côtoyé, vu à Barcelone, c'est un projet de jeu.
J'ai vu sourire. Pas Louis van Gaal,
oui. Oui, non, mais c'est l'ADN, tu sais, c'est le football hollandais, c'est la Hollande, c'est l'Ajax, c'est ce passé-là. Mais
est-ce que Louis, c'est pas les limites d'un entraîneur comme Louis van Gaal, par exemple, qui a connu, comme tu l'as dit, hein, on est revenu dans le passé. Moi, je ne critique pas le technicien parce qu'il a fait ses preuves en gagnant la plus belle des compétitions déjà. Mais n'empêche qu'avec cette nouvelle génération, il y a une approche qui est différente dans le management. Et on a l'impression que là-dessus, il a du mal à passer le cap quand même.
Il faut certainement, comme Didier Deschamps l'est, bien être accompagné. Tu sais, quand tu as des gens à tes côtés qui t'accompagnent, qui sont là au quotidien, qui t'aident, qui sachent aussi te soulager. Hein. Il faut te soulager quand même. Hein. Tu ne peux pas tout faire. Il faut avoir un bon staff médical. Il faut avoir des bons préparateurs. Il faut. Voilà, c'est une bonne
idée. Mais est-ce que s'ouvrir comme ça, Louis van Gaal en est capable?
Tu as vu qui c'est qui est à côté, ses côtés?
Ouais.
Il y a les anciens qui sont là.
Il y a Gardevitch, il y a Blint.
Voilà, Blint.
Louis, simplement, puisque tu parlais d'Edgar Davis, il a peut-être plus non plus dans son équipe des joueurs de ce talent-là. Il a plus des Van Persie devant. Alors c'est peut-être pas plus mauvais derrière avec Van Dijk, mais devant, c'est moins bon que ça ne l'a été. Et au milieu, évidemment, c'est aussi moins bon. Donc, les joueurs, l'équipe tourne plutôt bien, mais est-ce qu'elle est capable de hausser son niveau au point d'être un outsider de cette Coupe du Monde? Je n'y crois pas tout à fait.
On n'est pas sur la plus grande génération des Pays-Bas.
Ils atteignent les demi-finales ou les quarts de finale, ils ont
rempli leur mission.
Voilà, c'est tout.
Johnny, j'ai envie de te lancer sur l'Équateur parce que tu es quand même bien placé pour nous parler de cette équipe qui a fini quand même, là, je regardais, troisième de la zone Amérique du Sud. Donc devant l'Uruguay, devant la Colombie, tu l'as dit Jean-Michel tout à l'heure, c'est quand même une équipe qui doit être intéressante, non?
Oui, le Brésil, il a fait seulement un match nul, trois matchs nuls, et un des trois, c'était contre l'Équateur. Oui, aujourd'hui, c'est une autre école.
Son collègue Gakpo à côté. Ah non, il est dedans, il est bien dedans, parce que le ballon est ressorti. Incroyable, collègue Gakpo à l'entrée de la surface de réparation. La frappe limpide du pied gauche qui va heurter les filets, qui ressort immédiatement à cause de sa puissance. 6 minutes de jeu, c'est son deuxième but dans la compétition. Il avait ouvert le score de la tête lors de la première rencontre face au Sénégal. Messieurs, c'est un crack ce Cody Gakpo, 23 ans et déjà un taulier. Il permet aussi de mener 1-0 après 6 minutes de jeu.
T'enflamme pas.
L'attaquant du PSV Eindhoven, t'enflamme pas Valentin Dibu.
Ouais, bon, après, il met un beau but. Hein,
oui, ses stats, messieurs, cette saison.
Il a une saccharine pied gauche.
Il a la dynamite dans ce pied gauche.
Deuxième but pour lui.
Il a même de la dynamite dans sa tête, lui, puisque c'est de la tête qu'il avait marqué le premier but.
De la tête, tout à fait. Et puis en plus, selon Valentin, Jean-Michel, il a fait gamelle. Hein.
Ah ouais,
regardez.
Moi, j'ai vu petit coup d'extérieur.
Valentin, t'es pas bien placé ou quoi? Qu'est-ce qui se passe, Valentin? Ouais.
J'ai pas mis mes lunettes, c'est pas bonne lunette.
Ah ouais, t'es bien au stade.
Oui, il est très haut dans le stade. Je suis très haut dans le stade, c'est pour ça.
Mais pourquoi Jeannot vous a filé ses lunettes à tous?
1-0 donc pour les Pays-Bas face à l'Équateur, les gars. Frappe magnifique. Johnny, je te rends la parole.
Johnny, vas-y, Johnny.
Oui, oui, non, l'Équateur, c'est une bonne équipe, malheureusement pour eux, ils viennent de prendre un but. Moi, je crois que le premier match du Pays-Bas, ils n'ont pas joué à leur niveau, ils ont beaucoup souffert, beaucoup de réussite, à part Gakpo, qui c'était le meilleur sur le terrain, il vient marquer son 12e but. Il y a certaines qualités individuelles, Jérôme, comme Plata, par exemple, qui, c'est un gaucher qui joue côté droit, qui dribble beaucoup, qui provoque beaucoup. On a vu Enner Valencia, qui tout le monde connaît, son expérience, ouais, c'est un buteur. Il a fait sortie de l'équipe, c'était Plata, il y a un joueur qui l'a changé par un défenseur aujourd'hui, je crois que c'est Romario Ibarra qui est sorti en attaquant, donc il a préféré une équipe plutôt défensive, et malheureusement il prend déjà un but.
Et bon, le but,
il y aura beaucoup de matchs encore.
On a beaucoup de buteurs à deux réalisations pour l'instant dans ce mondial, hein. Bukayo Saka, donc Cody Gakpo, Ferran Torres, Valencia, t'en parlais à l'instant, Johnny Richarlison hier, on parlera du Brésil et de Neymar tout à l'heure, Olivier Giroud bien sûr. On espère qu'il en marquera un, deux, voire trois demain pour être le seul meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France.
Ah, c'est ce que tu souhaites, toi Nico.
C'est ce que tu souhaites que. Ça veut dire que la France gagne, Jérôme, enfin.
Oui, non, mais de toute façon, du moment que la France, elle gagne, il n'y a pas de problème. Après, que ça soit Olivier ou
Kylian.
Ah non, pas du tout. Alors là, franchement, détrompe-toi. Moi, j'ai envie d'une chose, c'est que la France, elle nous le fasse rêver. Donc, si elle nous fait rêver avec un numéro 9
qui merci l'arbitre. Moi, c'est pas possible qu'il siffle.
Oui, Jean-Michel.
Non, allez,
Pourquoi... Valentin, tu nous tiens au courant, fil rouge, hein, ce match entre les Pays-Bas et l'Équateur, les Pays-Bas qui mènent à zéro grâce à un but de Cody Gakpo. Les gars, l'équipe de France, on ouvre notre premier débat sur les Bleus, évidemment. Quel changement attendre? Tiens, je commence avec toi, Jérôme. Qu'est-ce que tu veux voir dans ce 11 qui va démarrer face au Danemark? Est-ce que Deschamps doit changer quelque chose?
Non. Pour moi, non. On doit être dans la continuité. De toute façon, le premier match a eu des satisfactions. On a encore des interrogations, déjà sur notre entame de match qui était pas bonne, mais ça peut arriver. C'est l'entrée dans la compétition. Malgré tout, je pense que derrière, on a montré une belle force, déjà individuelle. J'ai trouvé des joueurs, tous les joueurs, bien en jambes. Alors oui, il y a en effet Pavard qui a fait un mauvais match, et là on se posera la question de savoir si Pavard ou c'est Koundé, mais moi je serais d'avis à continuer avec Pavard dans un premier temps. Il faut pas le juger juste sur une mauvaise prestation, et il a fait ses preuves avant aussi. Après, milieu de terrain, je pense que ça changera pas. Tchouaméni doit être meilleur à mon sens. Griezmann dans ce
meilleur
rôle,
comment
meilleur dans l'utilisation du ballon. Voilà, parce que déjà tu vas avoir une adversité tout autre, elle sera plus forte cette adversité, et puis derrière il doit fonctionner comme le vrai milieu de terrain qui oriente bien le jeu, qui gagne en vitesse de jeu pour permettre à Kylian sur un côté ou à Dembélé de l'autre de prendre le ballon, d'avoir un petit peu un temps d'avance sur ses adversaires et de faire du 1 contre 1. Parce que ces joueurs-là, si tu trouves Dembélé et Mbappé sur les côtés en 1 contre 1, ils vont faire très mal à n'importe quel défenseur dans tous les cas. Et moi j'attends de voir ça, d'être dans la continuité de ce côté-là. Donc je veux les mêmes joueurs avec un Rabiot qui emmène les autres, un Tchouaméni meilleur au milieu de terrain, un Griezmann où il participe un peu plus au jeu et encore plus déterminant, plus décisif pour servir Giroud, pour servir Dembélé ou pour servir Kylian Mbappé. Et puis voilà, et puis si on a ça, bah on gagnera contre le Danemark, ça voudra dire qu'on a passé un cap.
Jean-Michel, tu changes rien
pas
également?
Pas de Varane, messieurs, l'expérience.
On va en parler.
Par rapport à une équipe du Danemark qui nous a bougé en juin au Stade de France, en septembre à Copenhague, où on a eu du mal défensivement. Ouais. Certes, on n'aura pas le même système défensif à trois actions, mais d'apporter quelque chose de plus au niveau de l'expérience.
C'est quoi les nouvelles, Jeannot Varane?
Ouais, les nouvelles, c'est
Varane
quoi, Jeannot?
Parce que les nouvelles sont très bonnes. Et Didier Deschamps a dit qu'il aurait pu débuter le match contre l'Australie.
Alors pourquoi il l'a pas fait?
Bah justement, s'il l'a pas fait, c'est que quelque part il avait envie, peut-être lui, mais en tout cas pas le joueur. Et ce soir il s'est entraîné sans strap, donc ça veut dire que là il est vraiment, par rapport à ce qu'on a pu assister à l'entraînement à plusieurs reprises avec Loïc Braillet et toute l'équipe qui suit l'équipe de France, il a pas de strap ce soir, donc il est vraiment apte à encore plus à jouer.
Jeannot, je veux pas te contredire sur le strap.
Mais c'est pas une question de me contredire.
Non, mais le strap ça sert à rien. Sur un problème musculaire, il faut savoir une chose, le strap,
ça sert à
c'est juste
le joueur.
Oui, pour rassurer, mais en fait ça sert à rien musculairement parlant.
T'as un strap, de toute façon, si t'es pas soigné, tu vas te péter, strap ou pas strap. De toute façon, le strap, il sert qu'à une chose, c'est à serrer ta cheville quand t'as une entorse et des douleurs à la cheville. Voilà. Mais sinon, musculairement, je peux te dire, à part de faire un garrot, mais tu peux pas jouer avec un garrot, ça sert à rien. Je sais pas ce que t'en penses, Louis.
Je dirais que j'ai comme l'impression, on a gagné quand même l'Australie, non? On a gagné ouais, combien? On a gagné 4-1, alors que la dernière fois, quand on les avait joués pour ce premier match, on avait...
2-1, elle avait galéré.
Bon, ouais. On avait galéré. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que contre ce Danemark, c'est une équipe à chaque fois qui en est,
On a perdu deux fois en 2022.
2-2, on est égalité avec eux. Hein. On a deux victoires, deux défaites et un match nul. Hein.
Dernière c'est-à-dire victoire que... Euro 2000.
C'est pour et ça que je te dirais aussi, Jeannot, je vais te dire aussi une petite stat que tu pourras donner peut-être en direct. Ouais, c'est vas-y. Que quand on les a battus en 84, on était champion d'Europe. Quand on les a battus en 98, on a été champion du monde. Quand on les a battus en 2000, on a été champion d'Europe. Alors c'est si ça. On les bat demain, eh ben, on sera champion du monde. Voilà.
C'est comme ça, c'est aussi simple que ça.
Mais oui, parce que c'est Danois, quand on les croise, quand on les voit demain.
T'avais été bon, en 84, Louis, tu
Non, j'avais fait le devoir. Et après, c'est le.
Comment tu dis? T'avais été bon. C'était où?
C'était au Parc des Princes, c'est le match d'ouverture, parce que c'est le match le plus difficile, le plus délicat, le plus compliqué qu'on a eu. Mais c'est Danois, et quand je regarde encore, c'est Danois aujourd'hui. Il pratique tout. Ils jouent tous pratiquement hors du pays, à part un seul qui joue au Danemark. Ils jouent dans les championnats, c'est-à-dire qu'ils ont un niveau. Et moi, j'ai vu que c'est. Il y a eu des formateurs qui sont passés, qui sont venus dans ces pays, qui ont travaillé une formation, et que ces joueurs-là aujourd'hui sont reconnus et qui posent des problèmes à tout le monde. Alors, c'est vrai qu'ils ont débuté par un match nul difficilement. Mais demain, ils ont la France, les champions du monde en face. Ils vont essayer de relever le niveau. Alors maintenant, que doit-on changer? J'ai vous entendu le poste d'arrière droit ou le retour de Varane. Moi, je fais une totale confiance à Didier Deschamps parce que déjà, contrairement au passé, on nous disait tiens, c'est un entraîneur défensif. Bah, cette fois-ci, il nous a mis Dembélé, Mbappé, Giroud et Griezmann, c'est pas rien.
Plus reculé quand même.
C'est pour ça que tu as mis là pour pas trop participer. C'est pour ça.
Voilà, donc exactement.
C'est l'équipe offensive. Rabiot déjà il participe. Si tu as mis, il participe aussi autant. L'équipe il perd un peu l'équilibre.
Exactement.
Donc quand tu joues comme ça, c'est important que lui il fasse la lecture correcte pour équilibrer l'équipe. Mais j'ai bien aimé l'équipe de France. J'ai bien aimé.
Les Danois possèdent, et peut-être qu'on n'a pas nous, et qu'on n'avait pas en tout cas les Australiens, et qui nous a posé des problèmes en juin, en septembre dernier, et qui peut encore nous en poser hier soir, c'est Christian Eriksen. Ça veut dire quelque part que pour ce joueur-là, Eriksen, on n'a pas trouvé la solution en juin, on n'a pas trouvé la solution en septembre. De renforcer par de l'expérience et la présence de Varane le secteur défensif, pour moi, c'est une vraie solution. Konaté et Upamecano, ok, ils ont joué en espoir ensemble, ok, ils ont joué à Leipzig également, mais pour ce très haut niveau et cette intensité que vont mettre les Danois, parce qu'ils sont obligés de faire un résultat face à l'équipe de France, c'est pas le même type de match auquel on peut s'attendre aussi pour les Bleus par rapport au résultat. Je trouve que de rajouter Varane, c'est peut-être un petit peu plus rassurant dans ce secteur défensif.
J'écoute Jeannot parler et souhaiter le retour de Varane. Il faut aussi savoir que Varane, c'est un garçon qui depuis le début de saison a quand même traversé une période assez délicate, assez difficile du côté de Manchester United. On n'a pas retrouvé le Varane du Real.
Il est quand même mieux.
Parce qu'il est mieux accompagné. C'est
oui.
Maguire qui est à ses côtés, c'est le petit Argentin
c'est
qui
pour,
est là.
C'est pour ça, Louis.
Il fait un bien énorme.
Martinez,
il l'a retapé, il a retrouvé cette confiance qu'on a vu en lui.
C'est pour ça qu'il était
bon. J'adore ce Varane. Et c'est vrai que j'ai envie de le revoir, Mais qu'il soit 100%.
Oui, mais restons prudents, exactement. Tu vois, quand Jeannot, Louis, il nous parle de Varane, l'importance contre le Danemark. Oui, il faut savoir que Varane, la défaite contre le Danemark au mois de juin, il me semble, à domicile, Varane, il était titulaire. Hein.
Ouais.
Donc, Varane ou pas Varane, je pense que c'est pas juste Varane qui va nous permettre de gagner.
C'est pas le même Varane en juin que ce qu'il est aujourd'hui.
Non, mais peu importe. Varane en équipe de France, il a un rôle qui est différent du rôle qu'il a à Manchester United. Ouais. C'est-à-dire que Varane, c'est la pièce essentielle derrière de Didier Deschamps. C'est la colonne vertébrale. Donc Varane, il doit réagir comme un patron, ça c'est sûr.
Vous restez avec nous dans un instant, Jean-Michel. Je te donne la parole pour évoquer notamment le cas Raphaël Varane. Bien sûr, vous écoutez Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde. 17h15 à Paris, 19h15 à Doha. Top score, Pays-Bas, Équateur, Valentin Jamin.
16e minute de jeu, 1-0 pour les Pays-Bas grâce au deuxième but dans la compétition de Cody Gakpo.
Neymar au programme de Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde. On veut la vie également de Juni. Juni après la victoire de la Seleção hier, 2-0. Et on va prolonger sur l'équipe de France. Quelle composition idéale demain face au Danemark? Luis Fernandez, Jérôme est là, évidemment, c'est son émission. Juni est là également. Jean-Michel, qui voilà, donne la parole. Moi, je suis ému, les gars. Quel casting, plusieurs générations, d'un palmarès incroyable.
J'ai vu Jérôme partir, il était en pleurs.
Jean-Louis, il regrette, il n'a pas posé ce jour de congé le bonjour. Allez, on revient dans un instant. Les gars, la suite de Pays-Bas Équateur, 1-0 pour les Néerlandais. Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde sur RMC. À tout de suite.
RMC, Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
17h17 sur RMC, 19h17 à Doha, en direct de Doha, avec Nico Jamin, avec Luis Fernandez, avec Jean-Michel Larquet, avec Juninho.
Franchement, un casting incroyable.
Je suis très très bien entouré aujourd'hui, comme d'habitude, de toute façon. On est toujours en direct, bien sûr, avec Valentin Jamin, avec Pays-Bas, Équateur, 1-0 au bout de 17 minutes pour les Hollandais. Et oui, pour l'instant, ils sont qualifiés pour la
résultat. Exactement. Cody Gakpo qui a marqué, Valentin.
Cody Gakpo, effectivement, a marqué dès la 6e minute de jeu, le jeune joueur du PSV Eindhoven, 18e pour l'instant au Khalifa Stadium. Et ça s'est bien calmé. Hein. Et c'était la seule frappe des Pays-Bas jusqu'ici. Ils n'ont pas retenté leur chance. Les Équatoriens ne parviennent pas non plus à se montrer dangereux. Donc le rythme a nettement baissé depuis cette ouverture du score de Gakpo. On joue depuis presque 20 minutes dans cette partie.
Alors vous le savez, pendant le mondial, grâce à RMC et Foot Corner, vous allez pouvoir remporter des maillots des équipes nationales aujourd'hui.
Et les Pays-Bas.
Un maillot mythique, l'orange, le maillot des Pays-Bas. Pour cela, c'est extrêmement simple. Vous envoyez foot au 7-32-16, foot au 7-32-16. Question à vous les gars, qui avez joué contre les Pays-Bas aussi. Est-ce que vous avez gardé un maillot des Pays-Bas quelque part? Une armoire.
Moi, j'en ai toujours un.
T'en as toujours un?
J'en ai toujours un.
De génération ou pas, tu te souviens?
Non, de génération en génération, dans tous les cas, parce que déjà, il est mythique, tu l'as dit. Et j'aime bien, tu sais, la culture foot, quand tu donnes ça à tes gamins, j'aime bien qu'ils s'imprègnent aussi de ce qui se passait avant et ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des pays qui sont importants pour moi. Oui, Jean-Michel.
Non, mais en parlant de maillot, il y a un maillot collector qui est le maillot de Cruyff lorsqu'il jouait en équipe des Pays-Bas. Vous savez pourquoi, les gars?
Oui, parce qu'il n'avait pas trois bandes.
Exactement, et c'est donc il ne jouait qu'avec une seule bande à la place des trois de Adidas, parce qu'il était, je crois qu'il était chez Puma, non?
Il était chez Puma, Adidas lui a imposé les trois bandes avec la sélection. Il a
Puma, oui, voilà. Puma, je sais pas, peut-être que ça existe plus.
Puma,
mais
Puma.
C'est avec l'accent.
Moi, je le dis à la Luis Fernandez, moi.
T'as vu
on
Luis?
Dit Puma, Luis. Ils ont dit Puma, on dit pas Puma.
Puma.
On dit Puma. Puma. Non. Et pour revenir à l'équipe de France, parce que c'est ce qui nous intéresse. Bon, au-delà des changements, alors j'ai lu et entendu que le sélectionneur n'était pas hostile à quelques petits ajustements ou changements. Mais moi, au-delà du changement des individus, je pense qu'il faut aussi un changement de mentalité. Je pense que les défenseurs, quels qu'ils soient, ne peuvent pas jouer avec la mentalité qu'ils ont affichée là contre lors du dernier match. Il va falloir un petit peu plus de présence. Et le cas Pavard est un cas extrêmement épineux. Je pense, honnêtement, mais Luis va me dire ce qu'il en pense. Oui. Demain, tu remplaces Pavard.
Si tu le remplaces pour la suite.
Moralement, tu le mets au fond du trou. Si après l'avoir remplacé, tu as un Koundé qui a des chances de ne pas être très performant dans un rôle qui n'est pas le sien. Comment tu fais? Comment tu fais, Luis? Est-ce que c'est une réflexion que peut avoir Didier Deschamps?
S'il y aura trois changements, par exemple, quand tu sors un joueur, c'est vrai que c'est pas bon du tout, mais sauf si tu es capable de changer
deux ou trois.
Je te coupe deux secondes. Oui. Il peut faire des changements sur le plan tactique. On parle notamment éventuellement de renforcer un peu le milieu de terrain, comme ça a été le cas depuis des années. Bon, mais j'en sais rien. Mais là, Pavard, s'il le remplace poste pour poste, c'est uniquement pour un manque de performance lors du match précédent. On est bien d'accord, Julie?
Exactement.
Oui. Si ça sort seulement un joueur, je crois que c'est bien clair qu'il n'a pas aimé la performance. Mais par exemple, le Pays-Bas, il a sorti un défenseur, il a sorti un milieu, il a sorti un attaquant. Ils ont gagné 12-0. Mais ils n'étaient pas performants. Jansen devant, il n'était pas performant. De Ligt, il est passé à côté de match complètement, mais il y a eu trois changements. Donc, sorti seulement Pavard, c'est peut-être, bien sûr, je suis d'accord avec vous, on perd le jour après.
Louis, tu sors après une victoire, tu regardes un peu ce qui a été bien fait et un peu moins bien fait. Jérôme, sur le match face à l'Australie, ce que je n'ai pas aimé, c'est les 10 premières minutes. Pourquoi ? Parce que devant, on n'a pas suffisamment été les empêcher de jouer, on les a laissés prendre confiance, et automatiquement, nos défenseurs se voyant, tu sais, reculer, et si devant, tu remontes, tu sais, quand tu es en train de presser, tu les mets un peu à la faute, tu récupères le ballon, c'est le bon pressing. Maintenant, c'est vrai que sur le but encaissé, il y a une petite erreur de placement de Pavard. Parce
grosse
que
erreur.
Aussi savoir
t'es gentil Pavard, sur la petite,
Louis.
Je t'ai connu plus tranché.
Je sais que Pavard, depuis le début de saison avec le Bayern, il jouait dans l'axe.
Non, mais on est bien d'accord.
C'est pour ça qu'il a peut-être perdu les rôles. Tu sais, t'as des automatismes.
C'est
un garçon qui a joué plus au départ dans un rôle de latéral. Ensuite, on l'a repositionné dans l'axe.
Mais Louis, regarde la question. T'as joué.
Et moi j'aime bien parce que comme disait Johnny, il faut qu'il reste. Sinon, si tu le sors, s'il est seul à sortir, si tu fais trois changements, ok, pas de problème. Mais si t'en fais qu'un en disant tiens, c'est Pavard, non.
Surtout que Pavard, sur le manque, par exemple, sur le but, où tu dis peut-être mauvais réflexe ou quoi, pour moi, et je sais pas ce que t'en penses, parce que tu as joué des fois, t'as pas joué longtemps arrière droit, mais t'as fait des fois des bouts de match, des matchs entiers. Je pense que quand tu joues derrière, t'as une mentalité à avoir. T'es plus un milieu de terrain.
Que c'est la même, c'était latéral.
Et en fait, je pense que Pavard, mais il est pas le seul, hein. Il est pas le seul, le début de match.
Changer les mentalités.
Ou Upamecano. Oui, t'as raison, Jean-Michel. Ou Upamecano, même Konaté, qui est
des défenseurs
rudes sur l'homme. Au début de match, j'ai l'impression qu'il joue un petit peu avec le frein. Et Pavard était pas dans la situation de se faire mal. Et au bout d'un moment, quand au bout de 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, tu prends le bouillon, t'es pas bien, t'appuies pas sur un bouton au niveau international encore plus en disant, ah ben maintenant il faut que je m'y mette. Non, c'est que dans la préparation de ton match, t'as fauté. Alors il a le droit à l'erreur, comme tous les joueurs. Le prochain match, il sera déterminant. S'il n'est pas bon contre le Danemark, là oui, il faudra changer.
Et puis les gars, on parle d'un joueur qui préfère jouer dans l'axe, hein, qu'il a déjà dit.
Oui, mais ça, on s'en fout. Là, il est prêt arrière droit, Nico.
Oui, d'accord. Donc, il joue, c'est l'essentiel, certes.
Aujourd'hui, il estime bien. Il ne jouera jamais à l'équipe de France, Pavard. Il est bien content de jouer arrière droit.
Exactement.
Nico, on va avoir comme un souvenir qu'on a été champion du monde avec Pavard à droite, avec Lucas à gauche, avec Varane dans l'axe, avec Umtiti.
Quatre défenseurs.
Et là, on est en train de vouloir sortir le quatrième.
Exactement.
On est en train de se poser des questions sur le quatrième, parce que Varane n'est pas encore revenu. On ne sait pas s'il sera là, sera présent. Mais on est en train de se poser une question. Et pourtant, quand on l'a vu évoluer à ce poste-là, on ne s'est jamais posé de questions. Les changements de système ont peut-être un peu perturbé un peu l'équipe de France.
Un peu tout, c'est vrai. Même les statuts, tu as raison, Louis. Et pour en revenir au changement, quand certains te disent, oui, on préfère voir Koundé, je suis désolé, les gars. Déjà, ce n'est pas un arrière-droit c'est de métier.
C'est un défenseur central.
Et en plus de ça, Koundé, quand il a joué arrière-droit en équipe de France, contrairement à Pavard, il a aucune référence. Pavard, je suis désolé. Autant il a
joué
des mauvais matchs
à droite.
Il a fait en équipe de France, Nico.
En équipe de France,
Pavard
a fait
des bons matchs. Koundé. Arrière droit, il en a fait des mauvais aussi, comme le dernier contre l'Australie. Mais Koundé a jamais été performant. On a des références avec Pavard.
Jamais.
Allez, Jean-Michel, top score d'abord sur le match qu'on suit en direct dans Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde, Pays-Bas, Équateur. Valentin Jamin.
26 minutes de jeu, 1-0 pour les Pays-Bas. Le but de Cody Gakpo à la 6e, mais les Équatoriens se rebiffent, notamment en passant par le côté gauche. De nombreux centres il y a quelques instants. Aucun n'a trouvé de preneur, mais ça se rapproche. 1-0 pour les Pays-Bas à la 26e.
Louis, t'as pas écouté Rotten sans flamme hier?
Non, on a parlé de toi.
Pas nous, une autre légende. Manu Amoros dans l'intégrale Coupe du Monde avec Pierre Dorian et pas dans Rotten sans flamme. Pierrot lui a posé la question, est-il facile de s'adapter quand on n'est pas un latéral droit? Écoute la réponse de Manu.
C'était Louis qui le prenait, il a été catastrophique, puis on a pris le premier but, on a changé parce que c'était pas très bien et moi je chopais Müller et franchement il allait très vite. On met quelqu'un qui ne sait pas jouer à ce poste-là. Henri Michel à l'époque nous a dit allez, il faut vite changer parce que là ça va pas. Donc c'est Thierry Tussaud qui est resté latéral gauche et moi je suis passé à droite. Et Louis il est monté d'un cran et c'était vachement mieux.
Quart de finale de Coupe du Monde contre le Brésil. En 86,
avant de jouer, tout entraîneur,
j'ai vu tout le match, Louis.
Alors il a été catastrophique ou pas?
Tu m'as fait pleurer.
Oui, parce que je sais, les Brésiliens ont pleuré, mais paix à son âme à Henri Michel et à Michel Hidalgo, ces hommes que j'ai eu.
Eh bien, c'est mon petit Louis.
Et c'est vrai que sur ce match-là, dans la préparation, il y avait une discussion, il y avait des échanges. Et Henri, dans la présentation, on avait un peu peur du côté gauche, un peu comme j'ai commencé comme ça contre la Belgique en 84 à Nantes. Michel Hidalgo me positionne comme un arrière droit pour bloquer Francky Vercotoren, qui était ce joueur, ce milieu de terrain.
Qui j'ai coché plutôt milieu de terrain.
Qui est rentré, voilà. Il me dit, toi, joueur arrière droit, ça te pose. Non, je vous mettez où vous voulez. Si vous voulez que je dans les buts, je vous bute devant.
Je suis
content. Et ben contre le Brésil, il me met à droite, il met Tussaud qui est gaucher, il le met au milieu avec Jean Tigana et Manu Amoros qui reste à gauche. Et j'ai joué à droite. Et après, quand on a pris ce premier but, parce qu'ils nous ont fait un but, il faut
revoir. Carreca, je me souviens de Carreca.
Des feintes de corps, ils nous ont endormis, ils nous ont fait un passement de jambes, ils nous ont fait des feintes, on est parti dans tous les sens.
Et ben, dans le zig, alors qu'il fallait aller dans le zag.
Ouais, ben il a remis Manu à droite, tu sois repassé à gauche, je suis remis au terrain à ma place.
Et l'équipe de France a qualifié pour les demi-finales de la Coupe. Et qui a qualifié l'équipe de France?
Et qui a marqué le dernier penalty?
C'est un certain Luis Fernandez. Ah, il est modeste, Luis.
Oui, il égalise pendant le match. Et s'il égalise pas,
il marque le dernier tour.
Bellon avant.
Oui, son petit bonhomme. Ils ont préparé l'émission. Tu me disais, t'as ce match-là.
Vas-y, mon petit bonhomme.
Tu m'as dit, c'est moi qui les ai emmenés. Je les ai emmenés tout là-haut. Et après, tu m'as même dit, en demi-finale, ils m'ont pas suivi. C'est pour ça qu'on a perdu.
Ah oui, contre la.
On va ressortir.
Les a récupérés les protestis bien que t'avais dans la rade.
Tu vas nous faire cette cagade sur le.
De quoi, Jean-Michel?
Tu as récupéré les protèges tibias que tu avais avec Guadalajara.
Je peux dire à Jean-Michel, on a revu le match et il y a deux joueurs qui méritent vraiment une. On va dire une.
Je sais qui tu vas me dire. Dis-moi.
Manuel Amoros et Maxime Bossis. Si tu revois ce match-là,
Max, il fait une Coupe du Monde 86. J'ai revu les matchs.
Ah ouais.
Mais il a été énorme, Max.
Manuel Amoros, c'est le plus grand latéral droit de l'histoire du foot.
Ouais, mais Manu, il se rattrapait un peu parce qu'en championnat d'Europe, il avait quand même, tu sais, il avait fauté quand même. Il vous l'a dit qu'il avait fauté?
Non, il n'a pas dit. On posera la question encore une fois. 1-0 pour les Pays-Bas face à l'Équateur, les gars. On vous écoute, Roten sans flamme intégrale, Coupe du Monde dans un instant, le Brésil. On va en parler. Juni est avec nous ce soir. Est-ce que la blessure de Neymar peut compromettre les chances de la Seleção? Des infos dans un instant, les dernières toutes fraîches concernant le meneur de jeu brésilien. Avec Jérôme Roten, Luis Fernandez, Juninho.
J'ai croisé des Brésiliens à l'hôtel.
Et je vous donnerai des infos.
Un ballon d'or, c'est ça?
Oh là là, magnifique. A tout de suite dans Roten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
RMC, Roten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Roten sans flamme. Oui, on est à 17h30 exactement. Toujours Pays-Bas, Équateur dans Roten sans flamme, spéciale Coupe du Monde. On est avec Nico Jamin, avec Luis Fernandez, avec Jean-Michel Larquet, avec Juninho. Et Valentin Jamin, bien sûr, sur place pour nous commenter ce match. Nico, on continue les débats sur l'équipe de France. On va parler du Brésil aussi. Le Brésil, dans un instant, je rappelle quand même que les Pays-Bas mènent 1-0 face à l'Équateur, Valentin.
31 minutes de jeu, effectivement, 1-0 pour les Néerlandais grâce au but du joueur du PSV, Cody Gakpo. Ils ont reculé vraiment les Néerlandais depuis quelques instants. On a eu une succession de centres, ça s'est poursuivi encore. Et puis, ils ont fini par remonter et obtenir un corner. Mais on sent que défensivement, c'est pas 100% serein, notamment sur ce côté gauche de l'attaque équatorienne où a été titularisé notamment Justin Timber dans l'axe. Eh bien, c'est un petit peu dur pour les Néerlandais. Néanmoins, ils s'en sortent, ils mènent 1-0 à la demi-heure de jeu.
Alors avant de parler de Neymar, du Brésil, la victoire de 2-0 hier, les gars, information RMC Sport, mise en place, entraînement équipe de France.
Ah, les infos.
Ce soir, les infos sont en train de tomber, grâce notamment à Fabrice Hawkins. Raphaël Varane a donc de bonnes sensations et devrait débuter demain soir. Première information. Deuxième information, dans la composition probable qu'on vous propose ce soir, et c'est la mise en place qui le dit, Koundé, titulaire, latéral droit. À côté de Varane, Upamecano, Lucas Hernandez.
Ah, c'est exactement ce qu'on disait. Ça va être difficile à gérer pour Pavard à accepter. Alors je sais pas ce qu'ils se sont dit. C'est toujours pareil. Hein. Il y a bien sûr eu un échange, une discussion avec Didier Deschamps. Je pense que le fait d'être champion du monde ensemble il y a quelques années crée des liens forts. Donc dans la compréhension, c'est peut-être plus simple que Didier Deschamps explique ça à Pavard. Mais n'empêche que Pavard est quelqu'un des motifs quand même.
Valencia, la frappe bien sortie par Adris Noppert. Il était sur le côté gauche, il s'est remis sur son pied droit et la frappe à l'entrée de la surface au premier poteau sorti en corner par le gardien néerlandais. Encore une fois, c'est venu de ce même côté, mais les Équatoriens se montrent dangereux et elle était très très belle cette frappe de la part d'Ener Valencia, le joueur du Fenerbahçe.
Ce gardien des Pays-Bas, il est quand même très bon. Il est très jeune, inexpérimenté. mais il prend une place, il va vite au sol pour sa taille. C'est pas ce que vous en pensez.
C'est vrai, parce qu'avant la compétition, il était en train de réfléchir, oui. Mon gars. Là,
il n'a pas pris Sillessen, c'était une polémique aux Pays-Bas. Ouais, c'est pour ça, il prend ce joueur, ce gardien méconnu.
Au vu de l'arrêt qu'il réalise là.
Ouais. Et puis même sur le premier match, hein, Louis, ouais. Hein, il a eu 2-3 arrêts à faire au sol, c'était pas mal. Et pour donc finir, Nico. On reparlera de l'équipe de France après 18h, bien sûr. Donc là, on va partir sur le Brésil.
Exactement. Le Brésil, la blessure de Neymar peut-elle compromettre les chances de la Seleção?
Vous nous appelez au 32-16. On a commencé le... Je pense que Johnny...
C'est la fête, Johnny. Allez,
c'est déjà la fête.
Je pense que Johnny, la Neymar, à chaque fois, on met cette musique.
Tu vois, parce
qu'il
y a du tellement de musique au Brésil.
Non, mais on lui met ça parce qu'il m'a dit que c'était un grand danseur.
Ah, Johnny,
c'est pas ça. C'est pas du Brésil.
Johnny, c'est le seul Brésilien, il sait pas danser, je comprends pas.
C'est grave.
Parce qu'il est français aussi, Johnny, c'est pour
ouais, oui, ça. Avec le Brésil.
Quoique j'en ai croisé un tout à l'heure à l'hôtel, je suis pas sûr que ça soit un grand danseur.
On va en parler. C'est un teasing, t'as rencontré un grand joueur brésilien.
C'est lui qui est venu vers moi. Hein.
Et peut-être qu'il sera sur RMC.
Ah, oh, il était pas possible. Ah, c'est pas possible.
Allez, les gars.
Il a reconnu Jérôme.
Ah ouais. Il a commenté le match du Brésil sur RMC hier.
Aurélien, avec
les gars, parce que Jean-Louis n'est pas là, il faut être indiscipliné, Jean-Michel. Hein. Ouais. Respectez-moi.
Non, il respecte pas. Il respecte.
Ne respecte pas. Il profite de la chance de Jean-Louis. Pardon, pour marcher dessus.
Veuillez m'excuser, monsieur Jamin.
Merci. Je vous excuse, monsieur. Monsieur
l'arqué. De rappel, c'était quand c'était l'arqué foot. Hein. Il y a eu Louis Attaque, il y a l'arqué foot.
C'est vrai. Ça. Il y a trois générations derrière.
Non, mais t'as vu, maintenant ils se tiennent bien quand même.
C'est les années dorées. Ça, c'était magnifique.
On vous écoute. Vous inquiétez pas.
C'est top, les gars. Louis, ça a tout appris, hein, à Jérôme. Hein. Tu sais que Jérôme, pendant des années, est écouté, il des fiches.
Non, mais
il s'est dit, voilà comment on peut faire.
Louis, il le sait, comme Jean-Michel, je le dis souvent, parce qu'on partage beaucoup de moments avec
Jean-Michel.
Louis,
il faisait pas de fiches. Hein.
Mais non, mais.
Écoutez dans le cerveau.
Non, Jérôme.
Non.
Jérôme non plus.
Hein. Ben, moi, je me suis servi de Louis, la préparation de Louis. Et il arrivait comme ça. les mains nues, il n'y avait rien.
Les feuilles étaient déjà prêtes.
Il dit, c'est faux, parce que Louis, passait beaucoup de temps au téléphone.
Pour venir voir ton émission, il y a toi, il y a les fiches là.
Montre à la caméra, Louis, regarde, t'es filmé. Celle qui est claire en rouge sur Twitch, ouais. La chaîne Twitch RMC.
Tu veux savoir sur le compo du Danemark
elle est là, d'accord, c'est ça. La moitié
tu veux
arrachée.
Savoir sur le...
C'est là.
Le passage.
Allez, le Brésil.
Et Louis, les tickets PMU, ils sont où?
Top, les gars, le Brésil, c'est important. Aurélien Tiercin est avec nous. Salut Aurélien.
Salut les amis.
Salut Aurélien.
Salut.
Quelles sont les dernières nouvelles, c'est important, de Neymar?
Ça va mieux, c'est rassurant. Les dernières images qui montrent qu'il a une contusion à la cheville droite, une lésion ligamentaire latérale avec un petit œdème osseux. Il sera forfait contre la Suisse, ça on vous l'annonce depuis le début de l'après-midi sur RMC. Et sa participation pour l'instant au Cameroun est encore possible, même si dans l'idée du staff brésilien, on se dirigerait peut-être sur le fait de le préserver pour le dernier match de poule et qu'il arrive plein ballon pour les huitièmes de finale, après la belle victoire du Brésil contre la Serbie, la qualification ne devrait, en tout cas, est largement envisageable pour les Brésiliens.
Aurélien, rassure-moi ce que tu nous as dit. Alors, l'œdème osseux, les ligamentaires et tout ça, c'est bien une entorse, quoi, en fait.
Oui, globalement, c'est une entorse.
D'accord, merci.
On aurait pu gagner
merci,
du temps,
docteur Aurélien Tiercin.
Oui, mais tu sais, c'est cher, Jérôme,
pour annoncer quelque chose de plus.
Oui, je sais, c'est pour ça, l'œdème, oui.
Bah. Bon, les gars, je me tourne vers vous également, vous qui avez déjà été blessé. Tout le monde s'est fait une entorse ou pas dans sa carrière?
Oui, mais... fait des entorses, on est obligé.
Oui.
Mais ce qui est sûr, et je suis persuadé
que bien aussi, les entorses sont inconnues. Moi, j'ai connu une ostéotomie de réalisation. Tu sais, c'est.
Il y a divers degrés d'entorses.
Hier, on disait sur RMC, il faut minimum 10 jours pour être.
Oui, mais non, mais ça veut rien dire, Nico. Ça veut rien dire. Je vais te dire pourquoi. Parce que on n'est pas dans la cheville de Neymar. Neymar, il a toujours eu des problèmes aux chevilles. Donc, dans tous les cas, tu vois la torsion, qui est une belle torsion quand même. Si demain, c'est moi qui l'a fait, ou Louis, ou Johnny, ou Jean-Michel, peut-être qu'on n'a rien. On se relève, ça gonfle, et puis il n'y a pas de problème. Lui, il souffre direct. Donc, vu comment ça a gonflé, on ne peut pas être dans sa tête la douleur. Parce que pour passer la douleur, il n'y a qu'une solution. C'est de... Pas l'infiltration, parce que voilà, c'est de la méso. La méso sur place, mésothérapie.
Il garde beaucoup le ballon aussi, comme il joue dos au but aussi, Jérôme. Il garde beaucoup le ballon. Il a gardé trop hier.
Mais c'est vrai, Johnny, mais à l'arrivée, vu le jeu qu'il a aussi, Neymar, s'il a des douleurs trop importantes à cette cheville, je ne vois pas comment il peut être à 100% sur le terrain.
et en 10 jours, en une semaine, on n'est personne pour savoir. Il n'y a que lui qui peut savoir. Le seul truc qui est important à voir, et où apparemment aujourd'hui, moi j'en parlais aussi à l'hôtel, parce qu'il y a beaucoup de membres de son staff à Neymar qui sont dans l'hôtel où je suis, apparemment, l'avantage c'est que ça a vite dégonflé. Et que quand ça regonfle pas tout de suite, c'est quand même bon signe pour la suite.
Juni, est-ce que le Brésil est inquiet ?
Pas trop. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de similitudes aujourd'hui entre l'équipe de France et le Brésil. On a eu beaucoup de discussions concernant l'arrière-droit. Après, l'équipe de France a joué avec Tchouameni, Rabiot. On a joué hier au Brésil, Casemiro et Paqueta, un gaucher aussi, oui. Milieu offensif. Côté gauche, Mbappé. Côté gauche, Vinicius. Dembélé, il y a Rafinha. Et Neymar, il jouait au poste de Griezmann. Mm-hmm. Ce qui se passe, c'est que Neymar, aujourd'hui, dans la tête de Tite, ils ne peuvent plus jouer à gauche. Et c'est à gauche où Neymar, il était vraiment le joueur qu'on a connu. Mm-hmm. Même si, bien sûr, il préfère aujourd'hui jouer plus près du but, comme un armateur. Mm-hmm. Il décroche pour prendre plus le ballon. Mais pour jouer à ces postes, si des fois, il faut jouer sur un touche de balle. Si. Hier, il a gardé beaucoup le ballon. Après, bien sûr que c'est Neymar.
Et il en a
c'est
perdu.
Un joueur décisif. Il a perdu beaucoup de ballons aussi. C'est vrai. Si Neymar ne joue pas, il y a une autre possibilité. Parce que Tite, il a joué toujours sur le 4-3-3. Donc, ils peuvent mettre un joueur comme Fred, qui est rentré hier, ou Bruno, aussi, qui est pas mal en ce moment aussi. Pas mal de solutions, l'équipe du Brésil. Bien sûr, si tu vas en demi-finale, en quart de finale, t'as Neymar à 100%, c'est mieux. Mais je ne vois pas de problème pour les deux prochains matchs sans Neymar.
Pour toi, c'est pas une catastrophe.
Si je t'entends bien, si je te comprends bien, c'est que ce qui te gêne un peu, c'est cette position nouvelle pour Neymar, qui est un peu plus dans le cœur du jeu. Ouais. C'est-à-dire que c'est un garçon qu'on a connu assez souvent, et je l'ai connu quand il était au Barça avec Suarez et Messi, il était sur un côté gauche.
Ouais,
là, il est complètement même au PSG quand il est arrivé aussi, là.
Il est arrivé sur le côté gauche.
Ouais. Maintenant, il va un peu plus dans l'intérieur parce que Tite, l'entraîneur, veut protéger ses côtés avec Rafinha d'un côté et de l'autre côté, il a notre
Vinicius.
Comme ça, il se dit au moins Neymar. Hier, c'est vrai qu'il a peut-être dans la première mi-temps, il n'a pas été bon comme ses partenaires. Ils ont été bons peut-être, on va dire dans le placement, dans le remplacement. Mais en deuxième mi-temps, Juni, c'est un garçon. Dès que tu le trouves entre les lignes, dès que tu le trouves dans les petits espaces, il est capable avec une robe. Une passe, il est capable de te faire mal. Hein.
C'est un génie, là.
Mais les autres Brésiliens qui sont entrés aussi. Parce que c'est moi, hier, aussi. J'ai été impressionné par la qualité du banc. C'est incroyable. Et incroyable. Et même auparavant, on disait toujours, ah oui, les Brésiliens, pour marquer un but, ils aiment bien rentrer avec le ballon au fond des filets, ouais, parce qu'ils sont tellement bons techniquement. Ils ont mis deux, trois pétards hier, notamment Casemiro, Alessandro, me semble-t-il. Qui c'est qui a frappé Juni?
Ils ont mis
des frappes absolument et quand tu vois les joueurs qui sont entrés, tu te dis mais cette équipe là, il peut y en avoir un ou deux qui ont des petites entorses de la cheville, ça va rien changer au problème.
Il y a une seule
chose qu'on n'a pas vu hier aussi, c'est que
Juni, est-ce que je peux te couper la parole pour faire une pause et je te la rends dans quelques secondes.
Ouais, parce qu'il faut te payer, Juni.
Roten sans flamme intégrale Coupe du Monde. Un match est en cours.
Nico,
entre les Pays-Bas.
Juni, c'est pas possible.
T'as vu, j'ai osé. J'ai toujours voulu faire ça un jour de ma vie, j'ai réussi. Tu l'as coupé sur le Brésil en plus.
Nous sommes
là. On connaît Juni. Et on reprend Juni. On l'a connu en 2014 au Brésil, il était avec nous sur la RMC. Juni, très bon souvenir. Pays-Bas, Équateur, top score, Valentin Jamin.
41 minutes de jeu, le score n'a pas bougé. Les Néerlandais sont devant 1-0 grâce au but de Cody Gakpo à la 6e minute de jeu.
La blessure de Neymar change le tout pour le Brésil. Venez en parler avec nous, 32-16, avec Luis Fernandez, avec Jean-Michel Larquet, avec Juninho et bien sûr Jérôme Rotten. À tout de suite sur RMC, 19h41 à Doha, 17h41 à Paris.
C'est pas possible.
RMC, Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
17h42 sur RMC, c'est toujours dans Rotten sans flamme, spéciale Coupe du Monde. Oui, on est en direct de Doha avec Nico Jamin, avec Luis Fernandez, avec Jean-Michel Larquet, avec Juninho et avec Valentin Jamin sur le match Pays-Bas. Équateur 1-0 pour les Pays-Bas. On arrive en fin de première mi-temps, Valentin.
Exactement, c'est la 43e, Valentin.
43e, effectivement. 1-0 pour des Néerlandais qui n'en ont pas fait plus. Une fois qu'ils ont marqué, on les a pas vus forcément aller à l'attaque. Au contraire, ils ont subi quelques situations, dont cette frappe tout à l'heure d'Ener Valencia, bien dangereuse et bien repoussée par Noppert, le gardien néerlandais. Mais c'est très brouillon en attaque, notamment pour les Oranges. Ça leur permet quand même, pour l'instant, de mener 1-0 et donc d'être bien qualifiés pour la suite si ça en restait là. Il reste 2 minutes dans cette première période, 1-0 pour les Pays-Bas.
Restez avec nous à 18h20. L'Argentine, peur sur l'Argentine avant son duel face au Mexique demain. Une élimination gâcherait-elle la fin de carrière de Léo Messi? Peut nous appeler au 32-16. On va débattre avec Jean-Michel, avec Louis, avec Juni.
Sûr que oui.
Et Jérôme, bien sûr. On poursuit sur Neymar, les gars, le Brésil.
Mmh. Oui.
Globalement, allons-y.
Redonne la parole à Juni.
C'est Juni.
Je voulais juste dire que hier, on a vu une équipe de la Serbie qui n'était pas capable de contre-attaquer le Brésil. Des joueurs grands, technique, mais qui allait pas vite. Le début, ils ont cherché haut. Ça a été difficile pour le Brésil. Mais à partir du moment que tu baisses ton énergie, que t'es plus capable.
Physiquement, ils étaient moins bien. Ouais.
Mais ils ont pas eu des contres parce qu'ils étaient pas capables de demander le ballon dans le dos de défense. Ça va pas vite. Donc peut-être, le Brésil a joué en 12e mi-temps. Le premier but, si on regarde, c'est Thiago Silva, qui récupère un ballon très très haut. Il y a un mauvais contrôle de Neymar. Le ballon, ils essaient de jouer pour Mitrovic. Thiago Silva, il anticipe la situation et c'est là que le Brésil reste haut et a gagné le match. Mais on ne peut pas analyser complètement le Brésil parce que c'était une équipe de Serbie qui a voulu jouer balle au pied.
Ouais, de toute façon, Johnny, tu sais que le Brésil est attendu. On les a regardés, on les a observés, on les a vus avant cette compétition. Quels que soient les Brésiliens qui jouent en Europe, qui jouent dans ces grands clubs, en train de faire des prouesses, en train de faire des choses exceptionnelles.
Pour toi, c'est le grand favori du monde.
Oui, pour moi, oui. Et même Neymar. Neymar s'est préparé. Ah, ouais, on l'a vu pendant les deux, trois derniers mois.
C'est impressionnant,
Voilà.
Si tu es en face, tu rentres le ballon comme d'agate, c'est compliqué quand même.
C'est le Brésil. La seule crainte que j'ai pour le Brésil, sans Neymar, c'est qu'il est tellement ce leader auprès de ses partenaires, ses coéquipiers.
Il emmène les autres.
Ouais. Ce qui me fait peur aussi pour le Brésil, c'est que peut-être Casemiro, Paqueta, je l'ai toujours considéré comme un joueur un peu plus dans un registre offensif que défensif. Si demain on défend bien face au Brésil, ils vont devoir, Casemiro va se retrouver tout seul devant les quatre défenseurs et là ils vont se retrouver peut-être avec des contres qui peuvent éventuellement leur faire mal.
Après, Louis, est-ce que tu es d'accord, et je sais pas, je pose la question aussi à Juni, c'est que qu'on regarde les équipes pour les analyser, pour dire ils sont favoris, c'est pas juste les individualités, parce que bien sûr
c'est collectif. Quand tu le vois hier, moi il me plaît.
En première mi-temps,
ils ont pas été bons, très bons, mais je les ai vus se replacer ensemble. Vinicius fait des efforts, tout le monde fait des efforts.
C'est la force.
Ça c'est important.
C'est la force qu'ils dégagent. C'est l'ambiance qu'il y a dans ce groupe. C'est les uns pour les autres. C'est des grandes phrases, mais c'est la réalité du football.
Le nombre d'occasions qu'ils se créent.
Et puis surtout, et surtout,
même s'ils sont pas bons, ils ont quand même. Il y a ce grand gaillard. De la Serbie qui s'est jeté comme un mort de faim là.
Non, le défenseur.
Ou le défenseur.
Milinkovic-Savic, tu veux dire
Milinkovic,
gardien.
Défenseur.
Le défenseur.
Pavlovic.
Pavlovic qui jouait
à Monaco. Ouais.
Exactement. Et qui a été, qui a sauvé des situations du bout du crampon. Les Brésiliens hier m'ont impressionné.
Ils m'ont impressionné. La force offensive, moi, j'avais pas de doute. On en parlait avant le match hier. Moi, j'avais envie de voir du football samba. On l'a pas trop vu en première mi-temps. La deuxième, il y a eu plus de deux occasions. Mais c'est surtout moi, dans la force collective, ce qui m'impressionne. Et on va en parler en
Personne ne marchait, tout le monde courait.
C'est tout le monde défensivement, ils concèdent quasiment pas d'occasion.
Parce que tout le monde fait le travail de remplacement.
Ils sont tous concernés. Le premier mi-temps, on n'a pas vu Richarlison, mais il a fait un travail énorme.
Bien sûr, je suis d'accord avec toi.
Il en a critiqué un peu, mais deuxième mi-temps, il marque.
Il est récompensé. Récompensé parce que le but qu'il met, là, ce retour acrobatique, on peut me dire ce qu'on veut, on peut me le raconter.
Même Louis,
mais celui-là, il faut le.
Les gars, messieurs, il faut vivre la fin de la première période entre l'Équateur et les Pays-Bas.
En plus, il y a
Valentin
minutes d'arrêt de jeu, donc ça va, on en profite.
Il reste
corner
une minute
pour l'Équateur.
Justement, dans ce temps additionnel, toujours 1-0 pour les Pays-Bas. Corner pour l'Équateur après un coup franc qui a été tiré au second poteau. La tête d'Ener Valencia, elle était intéressante, mais Nathan Aké a contré ce ballon juste devant l'attaquant qui a déjà marqué deux buts, Ener Valencia, dans ce mondial. Doublé face au Qatar. Corner donc à venir pour l'Équateur, de la droite vers la gauche, ce sera rentrant. Et une petite chenille, j'ai l'impression, qui se met en place.
C'est des embouteillages, là. Il faut qu'ils mettent les clignotants.
Voilà, des joueurs de l'Équateur. Ils font la chenille au niveau du point de pénalty. Et du coup, les joueurs des Pays-Bas s'organisent.
Ils ont copié les Français.
C'est la chenille de Guy Lacombe. On l'embrasse de là-haut, Guy.
Allez, le corner de la droite vers la gauche. C'est parti au premier poteau. Dévié par une. Oh, finalement, c'est dedans. Parce que sur un second ballon, un Équatorien a frappé. Et ça a été dévié dans la surface de réparation par Fervis et Stupinian au premier poteau. L'égalisation équatorienne à quelques secondes de la fin de cette première période.
Est-ce qu'il y a gardien?
Il y a un jeu devant le gardien. Non, mais je pense qu'il va être validé. Mais
pas sûr, parce que.
Non, il y en a. Il y a un signal en jeu pour l'instant.
Il y a un jeu signalé. Voilà, exactement.
Il n'a pas levé le drapeau, celui-là.
En tout cas, l'enjeu est vraisemblablement signalé parce qu'Estupinian dit ne pas comprendre. On est en train, de voir le ralenti corner repoussé au premier poteau. Il y a un joueur, en fait, qui ne fait pas action de jeu, mais qui est devant le gardien, qui est hors jeu.
Le 25, c'est le 25.
Exactement, c'est le Troyen Jackson Corozzo.
C'est contre son camp qu'il la met. C'est le Hollandais qui la met.
C'est Estupinian. Il y a hors jeu. Il y a hors jeu. C'est signalé par l'arbitre algérien.
Il est dur, le hors jeu, quand même.
1-0 pour les Pays-Bas.
De toute façon, je pense que. Équatorien ou pas devant, il y a but. Hein. Je pense que ça changerait son problème.
Franchement, c'est pour ça.
C'est but, ça.
Bon, en tout cas, ça fait toujours, messieurs. 1-0 pour les Pays-Bas face à l'Équateur. Et c'est la mi-temps à l'instant. Donc, ce but équatorien refusé pour un hors-jeu. On va résumer en disant que c'est un Équatorien qui ne fait pas action de jeu, mais qui est sur la trajectoire du ballon après la déviation de son coéquipier et qui peut éventuellement gêner le gardien néerlandais. 1-0 pour les Pays-Bas à la pause face à l'Équateur.
Votre match sur RMC avec Groupe Verlaine, expert de l'isolation par l'extérieur et du photovoltaïque pour maisons individuelles. Groupeverlaine.com.
RMC. Coupe du monde de la FIFA 2022.
Et oui, toujours 1-0, donc c'est la mi-temps, Pays-Bas contre l'Équateur. Et franchement, on est en train d'analyser ça avec avec Luis Fernandez, avec Juninho, avec Jean-Michel Larquet et avec Nico Jamin ce soir. Le but, il est très sévère, refusé aux Équatoriens.
Ouais, c'est Juninho également.
Parce qu'il ne fait pas action de jeu.
Si c'est le contraire, je ne sais pas s'il a le courage de faire aussi.
Il y a le poids aussi. C'est vrai, t'as pas tort, Juninho, parce que c'est l'Équateur, c'est pas le Brésil, c'est pas l'Argentine.
Il cache pas la trajectoire du ballon.
Surtout que les gars, je sais pas ce que vous en pensez, c'est que le gardien, il plonge déjà sur la droite. Voilà, il est déjà à terre, donc en aucun cas il est surpris ou masqué par le numéro 25. Là, le
il fallait que l'arbitre aille voir là-bas.
C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que depuis le début de la compétition, est-ce que vous en avez vu un qui a été se diriger pour voir à là-bas?
Non. Ah, c'est pour les pénaltys, oui. Pour les pénaltys.
Pourquoi aujourd'hui j'ai vu le Qatar là? Il n'y a pas pénalty pour le Qatar là?
Et pourtant, il y a pénalty.
Il y en a un qui allait voir pour le premier carton rouge de la compétition tout à l'heure.
Ah bon?
Ouais, donné au gardien
de Pays de Galles.
Mais là, c'est le Qatar qui a.
Oui, normalement.
C'est juste, quand même. Il est poussé, non?
Il aurait dû aller voir.
L'arbitre espagnol, il était encore en train de manger la paella quand il est là sur le coup.
Là, c'est le meilleur espagnol.
Pourtant, c'est pas des habillés français, on est d'accord dans le bar. C'est étonnant.
Allez, messieurs, on va débriefer dans un instant dans Rotten sans flamme intégrale Coupe du Monde. C'est 48 premières minutes entre le Pays-Bas et l'Équateur 1-0 pour les Néerlandais. Grosse deuxième heure à venir ce soir. Dans Rotten sans flamme intégrale Coupe du Monde, on va parler de Dembélé, son importance dans la vie de groupe. Est-ce que ce mondial peut être celui d'Ousmane?
Et bien sûr,
c'est Dembélé. L'Argentine au programme également. On va rappeler les informations, composition probable de l'équipe de France face au Danemark. On est ensemble jusqu'à 20h sur RMC, l'intégrale Coupe du Monde. Rotten sans flamme, 17h50 à Paris, 19h50 à Doha. A tout de suite sur RMC.
RMC, Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
17h54 dans Rotten sans flamme, spécial Coupe du Monde. On est là en direct, bien sûr, Pays-Bas, Équateur. Pour l'instant, 1-0 pour les Pays-Bas. À la mi-temps, ça va reprendre dans quelques instants. On est avec Nico Jamin, on est avec Luis Fernandez, on est avec Jean-Michel Larquet et avec Juninho. Oui, casting de rêve aujourd'hui, bien sûr, pour ce match et pour débriefer encore le match du Brésil d'hier, pour se lancer sur le match de l'équipe de France. Parce que c'est demain le match de l'équipe de France. On joue déjà la qualif demain, Nico.
Si la France gagne, la France sera qualifiée pour le 8e de finale. On ne connaîtra pas encore la place. Finale dans ce groupe des Bleus. Ce débat notamment à 18h05. Ce mondial peut-il être celui d'Ousmane Dembélé, lui qui était passé à côté en 2018. On va en parler bien sûr. L'Argentine également, peur sur l'Argentine. Est-ce qu'une élimination gâcherait la fin de carrière de Léo Messi? Match demain soir 20h face au Mexique. Mais on parie tout de suite sur RMC sur la deuxième période de ce match Pays-Bas-Équateur.
Winamax, le plus important c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Et avec Johan Guillet. Salut Johan.
Salut messieurs, salut à tous.
Salut Johan. Les codes de ce match, s'il te plaît.
Alors là, forcément, elles sont ultra déséquilibrées. 1-19, la victoire des Pays-Bas, 14-50, le succès de l'Équateur, 4-80, le match nul. Écoutez, messieurs, je vais quand même partir sur un résultat nul. Le 1 partout me plaît bien quand je vois ce que proposent les Équatoriens depuis l'ouverture du score néerlandaise. C'est à 5-20.
Ah ouais, c'est énorme.
Ça se tente.
Johan, j'étais pas loin de penser comme toi.
Après, je pense que les Pays-Bas vont se réveiller quand même en deuxième mi-temps. Ils vont prendre une bonne soufflante de la part de Louis van Gaal. Ils vont peut-être se réveiller. Il va y avoir des changements. Et j'ai quand même l'impression, l'injustice quand même sur cette égalisation équatorienne, parce qu'elle était valable, va laisser des traces. Donc moi, je vois une victoire des Pays-Bas 2-0. Score exact, c'est quoi ça?
Et ça vous permet de redoubler la mise. C'est pas mal du tout.
4. Ah, c'est pas mal. Allez, go.
Merci Johan. Tous les conseils à retrouver sur le site rmcsport.fr.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Vous restez avec nous dans l'intégrale Coupe du Monde. Roten sans flamme. Ce soir, on est ensemble jusqu'à 20h, comme tous les soirs, sur RMC, la radio officielle de la Coupe du Monde. Au programme, l'équipe de France, la composition probable avant le Danemark, l'Argentine, la peur en Argentine avant d'affronter le Mexique, la peur d'une élimination, la fin du match de Pays-Bas-Équateur, 1-0 pour les Pays-Bas. Et puis, tiens, Jérôme, Roten s'engage à 19h40. Oui. Le Brésil doit être un exemple pour l'équipe de France. Ça va plaire à Juninho. On va en débattre. Appelez-nous au 32-16.
Ça peut plaire aux Français, surtout.
Roten sans flamme. Moi. Intégrale Coupe du Monde sur RMC, 19h57 à Doha, 17h57 à Paris. A tout de suite.
Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.